qu'est-ce qui vous ferait croire que le Canadien peut rebondir? Il reste 13 matchs. Hein? Évidemment, si Price demeure en santé, s'il joue tous les matchs, le Canadien a seulement une fois là, un back-à-back, comme on appelle, c'est-à-dire deux matchs en 24 heures. Dans les 9 prochains matchs, le Canadien affronte toutes des formations qui ne sont pas nécessairement assurées d'une place en série. Detroit, Islanders, Chicago, Flyers, Islanders à nouveau, Buffalo, Caroline, Florida, Columbus. En tout cas, ça, c'est le côté positif. Il faut le faire, toutefois. Il faut le faire. Bruno Gervais est avec nous. Lui qui travaille au Réseau des sports, aux émissions 5 à 7, Hockey 360, l'antichambre, en robe de chambre, analyste pour le Rocket aussi. Toujours un plaisir. Bruno, salut.
Salut, Rod.
Écoute. C'est pas vraiment ce que je m'attendais la dernière semaine. T'sais, j'aurais aimé qu'on aille chercher, le Canadien aille chercher un petit deux points de plus. Eux autres aussi, ils avaient tout planifié ça. Avec Anaheim, Price dans le filet, tout ça. Mais ça, le scénario, ça aurait été ça. Parfait, là, ça aurait été une belle victoire. Pas de problème, on vient à Montréal. Je pense qu'on est mode série. Là. D'ici la fin, là, on peut plus trop manquer notre coup.
Ah non, ça c'est sûr. Puis tu l'as dit, mode série. Puis je pense que ça fait déjà quelques matchs que le Canadien est vraiment en mode survie jusqu'à la fin. Ça va être serré. Plusieurs équipes là, qui vont se battre avec eux. Là, il y a les Pingouins, on dirait qu'ils ont pris leur forme. Là. Ils ont juste niaisé un petit peu avec le pas grand ça intéressant, mais là, ils ont décollé. Mais entre la Caroline, Columbus et le Canadien, le Canadien, puis tu le disais un peu en introduction, moi, je pense qu'ils vont rebondir. Puis une des parties de ça, c'est leur horaire est un peu plus facile, un peu plus simple que Columbus et la Caroline. Columbus s'est tiré dans le pied là, quand ils ont été chercher Duchesne. Il y avait une séquence de 4 ou 5 matchs à la maison qui n'ont pas été capables d'aller chercher des points qu'il le fallait. Je pense que c'est pas mal mieux pour une équipe de pas réussir à aller chercher les points que tu veux dans un voyage en Californie que de faire ça à la maison. Columbus s'est tiré un petit peu dans le pied là. La réalité, la Caroline aussi a un horaire difficile. Fait que, comme tu l'as dit, moi je vois qu'ils peuvent rebondir parce que là, ça a été beaucoup de hockey. En peu de temps, là, tu as quelques jours pour démêler tout ça, te reposer, te replacer, puis là, tu as un horaire devant toi là, un peu plus stable où tu joues aux 2 jours. Il n'y a pas 2 matchs de suite. C'est aux 2 jours, puis tu as des adversaires là-dedans, qui c'est Détroit, Philadelphie, Buffalo, Chicago. Ça va être intéressant de voir ce que le Canadien va faire là, dans ces matchs-là, mais selon moi, ils peuvent rebondir.
Bruno Gervais est notre invité. Oui, je suis d'accord. Tu as ciblé Columbus. Moi aussi, l'équipe qui a fait le plus de changements, qui est allée chercher du renfort au maximum, ils se sont même placés d'une position très, très, très désavantageuse. Si jamais, surtout, ils ne font pas les séries. Moi, c'est plus eux autres que je verrais exclus, puis le Canadien pourrait se glisser, là, tu comprends? Pourquoi je dis Columbus, puis je veux que tu m'en parles aussi, parce que ils ont 5 matchs à domicile sur 14, mais Colin, ils ont du succès sur la route cette année. Fait que ça, c'est plus ou moins bon. Sauf qu'ils ont 4 fois 2 matchs en 2 soirs. Ça, c'est favorable pour le Canadien. Ma question à Bruno Gervais. Bruno, le fait d'amasser comme ça, d'aller chercher à gauche, à droite, un paquet de bons joueurs, super vedettes, tout ça. Tout le monde dans le tas. Ah ouais, donc, puis peu de temps, une vingtaine de matchs, tout au plus, là, pour cimenter ça, là, tu sais, aller chercher une genre de chimie, et surtout avec Torts. Tortorella, lui, qui est pas trop patient là-dedans, tu sais, veut dire, c'est un gars qui se traîne les bottines. Comment tu vois ça? Ça peut-tu être néfaste pour cette équipe-là d'avoir agi ainsi?
Mais ça, je dirais pas que ça peut être néfaste, parce que l'objectif de ça, c'est quand même d'améliorer ton alignement, mais c'est pas garant de succès aussitôt la transaction fait. Puis ce qui est difficile dans cette situation-là, c'est que du côté Columbus, ils voulaient un peu régler leur ligne de centre. Ils voulaient remettre un Foligno à l'aile, ils voulaient s'approfondir là, ils trouvaient qu'il y en avait beaucoup sur les épaules à Dubois, avec qui ils ont été chercher Duchesne, qui ont placé au centre, mais c'est pas évident. Tu peux pas être garant du succès que Matt Duchesne avait avec les Sénateurs d'Ottawa, qui avait un point par match, parce que c'est un autre style de jeu. C'est un autre sur la patinoire, là, ce qui se passe sur la glace, là, il y avait des succès avec Ottawa parce qu'il était dans une zone de confort, il maximisait sa façon de jouer. Ouais. Puis exemple, lui, il aime bien ça, sortir du but à gauche du gardien, puis repérer un droitier qui est prêt pour un lancer, ou un gars qui pense un peu comme lui. Tu développes des automatismes en jouant avec un joueur, tu le vois tout de suite que s'il récupère la rondelle, puis qu'il revient là, lors de la rampe, je le sais où il va regarder, je m'en vais là. Puis ça prend quelques matchs avant que les joueurs soient capables de développer ça, même en faisant l'avantage numérique. L'avantage numérique des Sénateurs allait très bien. Matt Duchesne en a profité, il faisait beaucoup de points là-dessus. Mais tu prends un joueur qui a du succès en avantage numérique, puis tu le changes de setup, là, je vois un peu la façon que les joueurs sont placés. Ouais. Mais ça, tu peux être un peu en déséquilibre, t'es pas habitué. Puis tu sais, je vais mettre ça un exemple. C'est un exemple que des fois je prends personnellement pour l'avoir vécu quand tu vas jouer un match rapidement avec même si c'est une meilleure équipe.
Ouais.
Junior, moi j'ai marqué beaucoup de buts en avantage numérique. C'est un peu ce qui m'a sorti du lot, mettons. Puis j'avais du succès parce que je jouais avec un joueur, Olivier Filion, qui, lui, dans sa tête, il créait un 2 contre 1 en haut avec moi pour un lancer sur réception.
Mmh.
Puis ça marchait. Puis là, j'étais allé au match des Étoiles de la Ligue junior majeure du Québec contre la Russie. Hey, c'est une super équipe. Mais là, ils m'ont mis en avantage numérique, mais le jeu se passait de l'autre côté, puis j'étais celui-là qui était « backdoor », qu'on appelle.
Ouais.
Mais moi, j'étais pas habitué à ça. Moi, j'aimais pas ça, puis j'avais pas de succès avec ça. Fait que ça marchait pas pantoute. Mais eux autres me voyaient, hey, j'étais un meilleur buteur de la Ligue. Voyons, comment ça que ça marche pas en avantage numérique? C'est pas ça que j'aime faire. C'est pas pantoute la manière que je le vois. Mais ça m'en fait pour n'importe quel joueur, quand tu changes d'environnement, hey, des fois, ça se peut que ça marche pas pantoute au début, puis que ça te prenne le double d'effort et de temps
okay.
avant de vraiment te sentir à l'aise, puis avoir une situation où tu vas pouvoir du succès.
Tu viens de m'ouvrir la porte. Tu parles du power play, l'avantage numérique. Le Canadien aurait pu, je te jure, là, le Canadien aurait facilement 8 points de plus, 8 à 9 points de plus s'il avait connu un avantage numérique moyen. Moyen, là, tu comprends? Bon, 8 à 9 points. On ne parlerait même pas de place en série. Le Canadien serait déjà là. Bon, une seule fois, Bruno Gervais, on a marqué 2 buts en avantage numérique dans un match, et c'est au mois d'octobre. Fait que, écoute-moi, là, je te pose la question. Comment ils font pour être aussi pourris? Comment... non, mais et les entraîneurs... Comment ils font pour vraiment ne plus rien savoir? C'est rendu que Jordan Wheel est rendu sur l'avantage numérique, que KK pense à pas... Tout le monde est allé... Moi, je suis allé... Je suis pas allé parce que j'ai pas lancé mes patins. Mais tout le monde est allé, Bruno Gervais. C'est pas normal. Veux-tu me donner ton point de vue là-dessus?
Bien... C'est dur à dire, puis c'est sûr qu'il y a du monde, il y a des têtes de hockey, puis c'est les joueurs là, qui sont dans la Ligue nationale, c'est tous des joueurs qui ont eu du succès
ouais.
en avantage numérique en quelque part. Tu sais, fait que ils connaissent ça, mais des fois, c'est dur. Il n'y a pas de cohésion qui s'est installée. Et dans une équipe où tu as une arme, là, vraiment, tu as une arme qui sort du lot en Shea Weber avec son lancer, son puissant lancer, mais il y a une façon pour que tu sois capable de la vendre, celle-là. Tu sais, si tu veux penser vers ça, ça peut avoir un effet positif ou un effet néfaste. Des fois, tu vas forcer le jeu. Tu vas essayer de le trouver tellement fort que c'est facile pour l'équipe, défensivement, de l'anticiper, de le bloquer, puis de te sortir de tes forces. Puis c'est facile de le jouer à ce moment-là. Mais il faut que tu sois capable de le vendre. Puis moi, les avantages numériques, quand tu regardes les avantages numériques qui ont du succès dans la Ligue nationale, la rondelle se bouge très rapidement, mais le joueur dans le centre de la boîte défensive est une menace. Est une menace constante qui fait hésiter tout le monde et qui crée des 2 contre 1. Un exemple, avec le Lightning de Tampa Bay, tu sais, on voit beaucoup les jeux Edmund, Kucherov, Stamkos, c'est le meilleur avantage numérique. Mais pour que Stamkos soit encore libre comme ça, ou Kucherov soit libre pour faire ses lancers sur réception, bien, ça veut dire que les joueurs trichaient ailleurs, pensaient d'autres choses. C'est Braden Point qui est dans le centre, là. Puis c'est toute une tête de hockey de la façon que lui, il se place, il va attirer les joueurs, il devient une menace. T.J. Oshie le fait à Washington, c'est Scheifele à Winnipeg, Pavelski à San Jose, t'as plein, Bergeron à Boston, c'est tous des gars qui sont une menace, t'y vois sur l'avantage numérique, puis c'est le joueur là, qui est encore, qui crée les zones grises, qui est extrêmement difficile à défendre si le joueur joue bien cette position-là.
Ouais.
Les avantages numériques qui ont du succès, ils ont un joueur clé là.
Mais tu sais, tu parles de tous ces gars-là, Giroux, tu pourrais dire Giroux à Philadelphie. La patente, là, Bruno... Dans l'alignement du Canadien, mais on n'a pas de Tavares, Marner, puis nomme-les, là. Quand même, on a un certain nombre de joueurs avec un certain talent. Bon, comment ils font pour ne pas dire, OK, voici la responsabilité d'un tel, un tel, un tel, puis juste un autre à côté, là, pour être excellent ancien gardien de but, tu le sais, Bruno, moi. Je sais que le plus difficile pour moi, là, c'est les passes transversales. Je peux rien y faire comme gardien de but. On marque jamais en passes transversales, nous autres. Dans le style, tu t'en souviens, Markov qui pouvait passer à Galchenyuk, l'autre bord, ou bien, on marque jamais de même. On garde note, on saute sur le retour, on espère. On marque jamais transversal. Bon, ça, c'est une chose. On marque jamais garde transversal. Je reviens à ma question initiale, Bruno. Qui va contrôler le power play chez nous? C'est-tu Drouin, oui ou non? C'est-tu quelqu'un d'autre? Tu vois-tu quelqu'un d'autre? On les a pas les éléments. C'est quoi l'affaire?
Bien, il y a les éléments. Il y a les éléments qui sont là. Puis des fois, ça devient un cercle vicieux parce que tu commences, tu n'as pas de succès. Fait que là, tu commences à changer ton personnel, à bouger les choses. Puis là, ça crée un petit peu d'hésitation. Puis cette hésitation-là se fait sentir parce que ce qui manque beaucoup, c'est la rapidité d'exécution. Quand tu parles de passe transversale, là, pour que ce passe-là réussisse à se faire, il faut que tu crées ces lignes de passe-là. Puis c'est pas en étant immobile. C'est que si tu bouges la rondelle rapidement puis tu fais mordre le joueur devant toi qui est défensivement, tu le fais mordre d'un côté ou de l'autre côté, mais là, tu vas ouvrir ces lignes de passe-là. Et souvent, à Montréal, ce qu'on va voir, c'est une passe. Manie la rondelle une fois, deux fois, trois fois. Bon, une passe. Mais dans ce temps-là, les joueurs défensivement ont le temps de fermer ces lignes de passe-là. Fait qu'il manque un petit peu cette exécution-là rapide. Une, deux, trois passes rapides vives qui vont ouvrir les lignes de tir et les lignes de passe. Puis ça, on dirait qu'on le voit pas. C'est tout le temps un peu, c'est lent, puis c'est facile à défendre. Puis un lancer, ça va être n'importe quel lancer de la pointe. Si le gardien la voit bien, puis il a eu le temps de se déplacer, puis t'es placé pour la recevoir, c'est facile à arrêter.
Bruno Gervais est notre invité. Une question et sous question. La première question, c'est si le Canadien est en série, qui sera exclu? Selon toi, là, il y a évidemment, il y a Islanders, il y a Philadelphie. Mais Philadelphie, ils sont pas là. Islanders, Columbus, Pittsburgh, Caroline, Canadiens. Bon, qui les Canadiens vont se glisser, mais qui va être exclu?
Bien, ça fait un bon bout que j'ai dit ça. Et je vais continuer à le dire, mais là, de plus en plus, je commence à avoir de la misère. Moi, j'avais dit les Hurricanes de Caroline. Parce qu'ils ont connu, tu sais, ils sont sur une lancée. C'est assez spectaculaire ce qu'ils font depuis environ 20 matchs. Et selon moi, il n'y avait pas la profondeur pour maintenir ça. Devant le filet, c'est encore un système d'alternance. Ça peut avoir un succès à court terme parce que tu crées une espèce de compétition interne. Mais à long terme, ça devient épuisant mentalement pour ces gars-là, ces joueurs-là, ces gardiens-là. Puis quand tu regardes l'alignement, c'est une bonne équipe, encore jeune, mais qui, selon moi, allait manquer de gaz un petit peu, puis qui allait redevenir un peu à la normale. Puis toute cette grosse séquence-là de grands succès les a amenés tout juste à la limite des séries. Fait que je les voyais tranquillement juste baisser à pavillon, puis que le Canadien se glisse là. Puis moi, je voyais le Canadien et Columbus se glisser comme équipe repêchée. Mais comme c'est là, la Caroline continue de rouler, continue de me faire mentir, par exemple.
Qu'est-ce qui te fait croire que le Canadien peut rebondir? J'ai parlé tantôt, tout le monde sur le Canadien est en santé. Évidemment, il y a des petits bobos partout. J'ai parlé aussi que le Canadien joue 7 de ses 13 derniers matchs à domicile. Mais qu'est-ce qui te fait croire, toi, que le Canadien peut rebondir?
Parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Puis notamment un match là, en décembre, le 22 décembre, je pense, c'est quand il était à Vegas. Puis ça a été un match là, où c'est un amphithéâtre très dur à jouer. Vegas qui prend complètement le contrôle de la rencontre. C'est une tempête, une tornade. Puis ils rebondissent. Ils trouvent tout le temps le moyen d'être dans un match. Tu sais, la déconfiture à Anaheim, ça faisait longtemps cette année, mais ça ressort de l'ordinaire parce qu'on n'a pas vu cette année des déconfitures. Ils sont tout le temps dans un match, puis ils ont une façon de jouer qui est très difficile à contrer. Puis ils sont en train, tu le vois qu'ils maîtrisent cette façon-là, puis ils savent qu'ils peuvent avoir du succès avec ça. Fait que moi, selon moi, c'est une gifle au visage qu'ils ont su à Anaheim, qui vont rebondir de ça, puis quand tu reviens à leur façon de jouer, là, eux autres là, peuvent prendre le contrôle d'une rencontre. Fait que quelques jours de repos, ça va faire du bien. Puis moi, selon moi, ils l'ont fait, puis ils ont la profondeur. Tu sais, je peux pas dire ça va être quel trio qui va s'afficher, qui va avoir une grosse soirée à chaque soir, mais il y en a tout le temps un qui est capable de le faire avec la profondeur là, de tes 9 joueurs là, sur les 3 premiers trios que tu peux avoir. Fait que selon moi, puis la façon que Price joue, ouais, peut-être le NM, c'était atroce, là, on l'oublie. C'est le genre de match que tu regardes même pas, tu analyses même pas, tu le jettes au vidange et tu passes à l'autre.
Oui, absolument. L'arrivée de Lundgren, c'est juste pour reposer Price durant les entraînements. Il n'y a pas ni Niemi, ni Lundgren devraient voir de l'action si Price est en santé. Es-tu d'accord?
Je ne pense pas. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment peut-être qu'ils sont... Puis ça permet de voir, tu sais, tranquillement, tu vois que le Rocket, ça va être encore loin pour une place en série. Si ton plan, c'est d'avoir Lindgren avec l'équipe l'année prochaine, avec sa situation contractuelle, mais c'est pas mauvais de l'amener passer du temps autour de l'équipe. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Passe du temps autour de l'équipe, entraîne-toi. Il y a des nouveaux coéquipiers, il y a des nouveaux joueurs qui sont là. Fait juste partie de l'entourage, c'est des fois...
Mais tu l'as vu souvent, Bruno, en terminant, Bruno Gervais a vu dit souvent, le Rocket, cette année, Lindgren était loin d'être le meilleur gardien de but. De toute façon, ils n'ont pas de meilleur comme tel, à moins que tu me dises qu'il y en a un vraiment qui tu me corriges, là. Mais Lindgren, si jamais, je donne un exemple, si jamais Price se blessait, moi, personnellement, je retournerais avec Niemi. Toi, est-ce que tu opterais pour Lindgren? Parce que moi, je pense pas que Lindgren s'en va dans la bonne direction. Là. T'en penses?
Moi, j'y retournerais. C'est sûr que je leur donnerais une chance à Niemi, ouais, malgré tout ce qui s'est passé. Ouais. Je suis bien d'accord avec ça. Lindgren, ça a été encore difficile. T'sais, il y a eu un bon match au dernier match. Son équipe est revenue de l'arrière. C'était une grosse victoire. Mais depuis sa blessure, là, ça a été un peu plus difficile de reprendre son rythme, de reprendre ses repères. Fait que je serais très patient avec lui. Surtout que son contrat fait que techniquement, c'est sa place à perdre à Montréal pour les deux prochaines saisons. Donc, je serai patient envers lui.
Ah, j'en ai juste une comme ça, là, puis je te laisse aller après. Si Niemi ne revenait pas l'année prochaine, est-ce qu'on a le second de Price dans l'organisation prêt pour l'an prochain? Là?
Prêt, c'est là, dans le plan, avec le contrat, c'est sûr que c'est à Charlie Lindgren de perdre ce place-là.
Okay.
Mais il va falloir qu'il fasse mieux que ce qu'il fait depuis son retour de la blessure pour prouver qu'il est capable d'être un second gardien pour Price.
OK, d'accord. Je sais que tu t'en vas jouer au hockey. Ben écoute, top net, hein? Top net du revers, c'était capable. Les gars vont être contents de te voir. C'est toujours le fun d'avoir un ex qui s'infiltre comme ça là, pour les amateurs qui voient ça arriver. Hey, mon Dieu, je vais jouer avec ou contre Bruno Gervais. Toujours un plaisir. Alors, je pense que je vois bientôt.
Ben, merci beaucoup, Ron. Un grand plaisir.
OK, bye bye. Bye, Bruno. Bye bye.